La question de la fragilité est une question
un peu à la mode.
Je pense à ce livre très récent, La fragilité, faiblesse ou richesse, avec notamment la contribution de Jean Vanier, de Xavier Emmanueli, Marie Barbary. Il y a eu un livre récent aussi du père Rouvillois sur l'homme fragile, un colloque de l'OCH, pour enfin, créer des liens avec les personnes fragiles. Mais ce thème ne va pas de soi. D'ailleurs, la question le montre bien, faiblesse ou richesse. Et en plus, peut-être traiter et pose des questions assez existentielles. Comment vivre avec la faiblesse, avec nos faiblesses. Et puis des questions beaucoup plus philosophiques par rapport à la dignité humaine. Comment la fragilité de l'homme, de certaines personnes, est-elle compatible avec ce que nous savons de la nature humaine, de sa dignité. Et donc la considération qu'on peut faire de la faiblesse révèle vraiment notre conception de la personne. Alors la conception classique était assez simple. Pascal l'a bien évoqué. L'homme fragile, bien sûr, hein, un roseau perdu entre les deux infinis, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, mais un roseau pensant, et donc dans toute la dignité et dans la pensée, et l'homme n'a qu'à travailler à bien penser. De même, hein, ici nous renvoyons facilement à la définition d'Aristote de l'homme comme animal raisonnable, caractérisé encore une fois par son intelligence et sa rationalité. Il est sûr que la considération de certaines grandes fragilités humaines, les personnes en fin de vie, en coma, les lourds handicaps, semblent remettre en cause cette définition de l'homme. Comment peut-on dire que la dignité de l'homme consiste en la pensée devant quelqu'un qui ne peut même pas parler? Et notre société, face à ces handicap lourd, ou ces grandes déficiences, ou la personne en fin de vie, notre société est assez claire. Devant ces grandes fragilités, il semble bien qu'on ne puisse pas dire que nous sommes devant des êtres humains, ou en tout cas à considérer de la même façon que tous les autres êtres humains. Nous sommes dans une société qui a une tendance eugéniste assez forte. Et que nous éliminons, nous avons tendance à désirer éliminer tous les êtres qui ne correspondent pas justement à un critère suffisant d'humanité à nos yeux. Quand on sait, et les chiffres laissent rêveur quand même, quand on sait que pratiquement 95% des femmes avortées, 80% des femmes avortent, hein, ou avorteraient, c'est quand elles savent qu'elles ont un enfant qui attend une trisomie 21, qui pourtant n'est pas le handicap le plus lourd qui soit, on se prend à réfléchir. Et on a, enfin vous connaissez peut-être la position de Peter Singer ou d'Engelhardt, qui vous explique qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas droit au statut de personne, qui sont des êtres humains mais qui ne sont pas des personnes, parce qu'ils n'ont pas la conscience suffisamment développée, ils n'ont donc pas d'autonomie, il n'y a pas pour eux de fait une sensibilité et un bien-être, il n'y a pas de productivité. Et donc, ils appartiennent à l'espèce humaine, mais ils n'ont pas la dignité de personne. Et Peter Singer constate, lui, alors il défend les droits des animaux, mais constate que entre une personne handicapée et un singe ou même un cochon, il n'y a pas d'hésitation possible, la vie du cochon ou du singe a plus de valeur que celle de l'enfant handicapé, hein, puisque ce sont des êtres qui ont une conscience plus développée et une autonomie plus grande que celle d'un enfant handicapé. Alors, l'eugénisme de nos sociétés n'est pas...